que toi dans le ciel. Je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis faible, ou même si je tombe, Dieu est le soutien de mon cœur. Je me sens bien. Quand mon cœur était plein d'amertume, je perdais la raison et je n'y voyais plus rien. Mais Dieu s'approcha pour me saisir la main. Dieu est le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur.
Je vais lire deux versets en introduction pour le message de Jean-Claude. Dans 1 Corinthiens 9, versets 24 à 27. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. Et encore dans Luc 8, verset 14. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance.
Voilà, bonjour. C'est toujours une joie de vivre un culte ici à Mérin et de passer quelques jours en Suisse romande. Litcha donnera quelques nouvelles à la fin. Il y a aussi une petite vidéo, je ne vais pas me rallonger là-dessus. Mais je vais vous expliquer le thème de notre réflexion ce matin. Un thème qui m'accompagne passablement au fil des années. Je pense que c'est dû aussi bien à des dynamiques personnelles que aussi à notre ministère de conseil conjugal ou de relations d'aide. Un thème qui m'accompagne beaucoup, c'est la croissance, le changement. Croître dans notre humanité, croître à la ressemblance de Jésus, affronter les nœuds de nos vies, affronter ce qui a besoin de guérison, affronter ce qui a besoin de changement, devenir des personnes plus adultes, plus mûres, plus capables d'aimer, plus capables de servir. Et c'est un thème important, c'est un thème vaste. Et la première réflexion qui me venait, c'est un peu la suivante. Nous vivons dans une société qui aime tout ce qui est rapide, qui aime l'efficacité, qui aime les bons trucs, quoi. Et on a du reste aussi pas mal de livres, des fois, dans les librairies évangéliques qui parlent de 7 pas, 7 points pour quelque chose, pour obtenir quelque chose. Et en fait, on aime ce qui est rapide. C'est caractéristique dans notre société. On parle aussi de fast-food. On aime aussi, et on a survécu à 9 mois aux États-Unis. On sait ce que c'est que la nourriture vite faite. Un truc qui m'a assez décontenancé, c'est de voir que dans les supermarchés, il y a une section consacrée à la nourriture qu'on peut manger devant la télé le soir. Donc c'est tout du pré-cuit. Vous mettez 2 minutes au micro-ondes et puis c'est prêt. Alors voilà, maintenant, quand on parle de croissance, est-ce qu'il y a de la fast croissance ou est-ce qu'il faut penser à une slow croissance, une croissance lente? C'est une bonne question. Nous avons déjà lu 2 textes qui nous fournissent déjà des indications. L'apôtre Paul, quand il utilise l'image de l'athlète pour parler de la vie chrétienne, de son cheminement, de son engagement, nous suggère quoi? Nous suggère qu'il faut de l'entraînement, faut de la discipline, faut de la persévérance, donc il faut du temps. Je pense pas qu'un athlète au top niveau peut obtenir les résultats qu'il obtient simplement parce qu'il s'est rapidement entraîné pendant quelques jours, mais c'est le fruit d'un long parcours et de mois, d'années de préparation pour arriver au top dans une discipline sportive. J'ai aussi choisi la fin de la parabole des terrains. C'est aussi intéressant parce que un autre accent que nous trouvons dans la Bible est celui de l'arbre qui porte des fruits, porter du fruit. Là aussi, il n'y a pas de raccourci. Il faut que les saisons passent et il y a un temps pour planter, il y a un temps pour récolter. Et ce qui m'a aussi frappé dans ce verset 15 du chapitre 8 de l'Évangile de Luc, c'est que dans le commentaire que Jésus fait, il parle de persévérance aussi. Et c'est un langage que nous retrouvons aussi ailleurs dans la Bible. Il faut de la persévérance, il faut de la patience. Toutes ces images nous suggèrent que pour croître, pour changer des choses qui ne vont pas dans notre vie, il faut du temps. Ceci dit, le temps tout seul, il résout rien. Des fois, on aime aussi souligner que le temps ne guérit pas les blessures, par exemple. C'est une vérité importante. Et le temps, en automatique, il ne fait rien. Autant, il faut ajouter 2 ingrédients fondamentaux. C'est la grâce de Dieu et la vérité. Le temps, la grâce, la vérité. Voilà un bon cocktail. Voilà des éléments fondamentaux pour un parcours de croissance qui continue dans le temps. Mais j'en reparlerai un peu à la fin du message de cette grâce et de cette vérité. Maintenant, j'aimerais plutôt axer la réflexion sur la question du temps. Et je me suis penché un moment sur un personnage de l'Ancien Testament que nous connaissons bien, Abraham. Et j'aimerais vous inviter à lire 3 versets, Genèse 12, les 3 premiers versets, qui nous parlent de l'appel d'Abraham. J'ai déjà ça dans mes notes, je vous le lis directement. L'Éternel dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie et ta famille et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Voilà, évoquer la figure d'Abraham. Figure importante, Abraham est un exemple de foi. Nous le trouvons en particulier cité aussi dans le fameux chapitre 11 de la lettre aux Hébreux. C'est par la foi qu'Abraham a obéi lorsque Dieu l'a appelé et qu'il est parti pour le pays qu'il devait recevoir en héritage. Il est parti sans savoir où il allait. Abraham est aussi appelé le père des croyants. Galates 3:7, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont les fils d'Abraham. Abraham est un exemple de foi, de confiance en Dieu. Plus que beaucoup d'autres personnages de l'Ancien Testament, nous voyons vraiment cette capacité de faire confiance et d'aller de l'avant, même là où le chemin n'est pas du tout clair, même là où le chemin est vraiment très compliqué et dramatique. Donc, oui, nous avons Abraham et nous aurions d'autres exemples que nous pourrions citer. Nous avons des exemples dans la Bible de personnes qui ont fait un parcours et qui ont pu vivre les bénédictions de Dieu, vivre le plan de Dieu pour leur vie, pour leur peuple. Et nous avons aussi cette tendance à idéaliser ces personnes, à les voir comme des exemples qui sont bien au-dessus de nos têtes, non? Et ça peut être un traquenard, parce que si on examine la vie d'Abraham, D'une part, il faut dire que tout ça a pris du temps. Abraham n'est pas devenu ce qu'il est devenu en quelques jours, en quelques semaines. Et d'autre part, et il y a un réalisme de la Bible, un réalisme que j'aime beaucoup. La Bible ne nous cache pas les difficultés, l'humanité des personnes qui font partie de l'histoire du peuple de Dieu. Abraham n'est absolument pas idéalisé. Sa vie n'a pas été toujours facile. Il y a eu des luttes, il y a eu des moments de défaite, de dépaysement, probablement des nuits d'insomnie. Il a payé un prix, mais il a aussi eu beaucoup de joie face aux promesses de Dieu qui se sont réalisées, face à la gratuité des dons de Dieu. La vie d'Abraham est un parcours long. Ce qu'il a pu atteindre a demandé de la persévérance, de la patience, de la confiance. Abraham, j'aime le souligner, a été un homme comme nous, avec ses hauts et ses bas. Il a appris à construire sa vie un pas après l'autre. Il n'est pas apparu comme ça soudainement sur la scène, comme un modèle préconfectionné d'homme mûr, d'homme de foi. Mais tout cela a pris du temps. Sa foi a pu grandir au travers du temps, au travers de son cheminement avec Dieu. Il y a des pages de la vie d'Abraham qui ne sont pas excellentes. Je peux évoquer brièvement certains événements moins glorieux de sa vie. Abraham présente deux fois sa femme Agar comme sa sœur parce qu'il a peur qu'on le tue pour lui piquer sa femme à deux moments donnés. Il y a aussi la tentative de raccourci quand l'enfant de la promesse n'arrive pas. Il y a cet enfant qui naît de la relation avec Agar, une servante de sa femme. Et puis, il y a eu des moments aussi terribles. Il y a l'épreuve du sacrifice d'Isaac. Et puis encore, si vous lisez à la fin de sa vie, on nous signale qu'il a été quand même polygame et qu'il a eu plusieurs concubines. Donc, si on veut résumer, c'est un homme qui a eu des hauts et des bas, qui a eu ses difficultés, ses combats, ses moments de doute. Abraham a commis des erreurs, il a trébuché, mais sa force était qu'il ne s'est jamais résigné, mais il a toujours su renouveler sa confiance en Dieu et reprendre le cheminement. Même là, quand tout devait le pousser à mettre en doute le plan de Dieu, il a persévéré, je pense au sacrifice d'Isaac. Donc, c'est une histoire importante pour nous, celle d'Abraham aussi, comme exemple de cheminement. Son cheminement a été basé, ceci dit, sur des promesses très claires que Dieu lui a faites dans les versets que nous avons lus. Il lui demande de quitter plusieurs choses, de quitter son pays, sa patrie, sa famille. Mais il y a aussi des promesses, un pays que Dieu va lui donner, une nation qui va naître de lui et une bénédiction qui va toucher tous les peuples de la terre. C'était des paroles fortes et nous pouvons penser que Abraham a pu passer pas mal de temps à méditer et à vraiment trouver sa force aussi dans les promesses que Dieu lui avait faites. Pour nos vies aussi, Dieu prononce des promesses, Dieu prononce des paroles de bénédiction et c'est aussi un ingrédient important dans notre cheminement pour persévérer, pour aller de l'avant et pour accepter que notre cheminement prend du temps, que certains objectifs ne sont pas atteints rapidement. J'aime beaucoup comparer la vie chrétienne à un voyage, à un cheminement. C'est captivant, ça implique pas mal de mouvements, de l'action, mais aussi des arrêts, des redéparts, des retards, des obstacles, des dangers, et aussi des moments où on n'est plus très sûr de notre chemin. Donc, Abraham, un exemple, il a laissé une vie confortable à l'âge de 75 ans et il s'est aventuré dans un long voyage, un voyage avec Dieu, mais un voyage qui a demandé beaucoup de temps et beaucoup de patience. Alors, la longueur du voyage, je ne la sais pas, je ne suis pas allé sur Google Maps contrôler ce que ça faisait de son voyage depuis Our, mais son attente, par contre, elle est mentionnée dans la Bible. 25 ans pour l'arrivée de l'enfant sans lequel toutes les promesses faites par Dieu auraient été inutiles. Revenons à notre réflexion de départ. Nous sommes tous en chemin. Nous sommes tous en chemin avec Dieu. Nous avons tous compris, reçu, écouté des promesses que Dieu nous a faites. Nous avons tous le désir de grandir, de cheminer, de devenir des personnes plus humaines, des personnes qui ressemblent à Jésus, qui est l'exemple parfait d'humanité. J'évite volontairement les paroles de croissance spirituelle parce que j'aime pas qu'on compartimente la vie, notre vie, en compartiments qui seraient séparés l'un de l'autre. Notre croissance est une croissance dans l'humanité. Le péché a créé des dommages à quoi ? À notre humanité. Le problème, ce n'est pas d'être pleinement humain. Le problème, c'est ce que le péché a fait dans notre vie. Et j'aime donc ce langage. Nous devons croître dans notre humanité, devenir plus humain, plus mûr, ou encore les paroles les plus fortes, ressembler à Jésus, notre exemple parfait d'humanité. Donc, nous sommes invités à la confiance dans le travail lent que Dieu veut réaliser dans nos vies. Par nature, nous sommes impatients, paresseux, ou facilement nous sommes pris par le doute. Nous sommes tentés de vouloir rejoindre des résultats sans perdre de temps. Nous voulons facilement sauter des étapes intermédiaires. Abraham l'a fait quand il a eu un enfant avec Agar, mais ça n'a rien donné de bon. Nous sommes facilement impatients lorsque nous sommes en chemin vers quelque chose de nouveau ou d'inconnu. Le chemin de la croissance peut demander beaucoup de temps et il faut souvent traverser des moments d'instabilité, des moments pas très confortables. Même la formation de nos convictions, de nos pensées prend du temps. Tout se forme lentement. Nous avons besoin de temps pour mûrir aussi au niveau de nos pensées, de nos convictions et de ne pas nous laisser prendre par l'impatience. Nous ne pouvons pas forcer les circonstances dans nos vies. Parfois, nous aimerions bien y voir plus clair, rejoindre rapidement des objectifs, et ça ne se passe pas aussi facilement. Seul Dieu connaît véritablement le chemin. Seul Dieu connaît véritablement le point où nous sommes dirigés. Et il s'agit fondamentalement pour nous d'avoir confiance. Nous ne comprenons pas toujours le chemin de nos vies. Nous avons besoin de cette confiance qui nous, comme Abraham, nous fait persévérer, nous fait aller de l'avant, même lorsque les choses ne sont pas très claires dans notre vie. Au début du message, j'ai parlé aussi de la grâce et de la vérité. La grâce, c'est la faveur imméritée de Dieu, que Dieu nous fait, de son amour, de son pardon, de la réconciliation avec lui. Mais c'est aussi la réalité que Dieu pourvoit à ce dont nous avons besoin. Ça fait partie de sa grâce. Donc s'il nous demande quelque chose, il pourvoit aussi ce dont nous avons besoin pour réaliser son appel, sa demande. La grâce me permet d'aller au-delà de mes faiblesses, de mes échecs. Elle me permet, et nous trouvons là l'autre terme important, de vivre dans la vérité. La vérité par rapport à la situation de ma vie, de mon cœur. Accepter de me voir et de voir les autres, de voir la réalité pour ce qu'elle est. C'est tentant de fermer les yeux ou de regarder ailleurs. C'est tentant de ne pas vouloir ouvrir les yeux sur la réalité de nos vies et de nos problèmes, de nos difficultés, de nos besoins, de nos doutes. La grâce me permet de vivre dans la vérité, parce que je ne risque rien. Si devant Dieu, mais aussi devant les personnes qui me sont proches, j'accepte d'être vu tel que je suis, avec mes faiblesses aussi, avec mes qualités, bien sûr, nous avons tous des qualités, mais si j'accepte d'être vu avec mes faiblesses, je n'ai rien à craindre, parce que Dieu m'accepte tel que je suis, Dieu m'aime tel que je suis. Dieu a un plan pour moi en partant de ce que je suis aujourd'hui. Donc, il est extrêmement important de vivre dans la vérité par rapport à notre situation, au plus profond de notre être. La grâce rend cela possible et le temps, ensuite, permet à l'œuvre de Dieu de se réaliser d'une manière fort belle dans nos vies. Mais il faut entrer dans ce mouvement, il faut entrer dans cette idée. Nous avons besoin de la vérité, nous avons besoin de la grâce. Je souligne cela parce que d'une part, dans le ministère de relations d'aide, nous réalisons combien ça peut être difficile d'entrer dans la démarche de vérité, combien ça peut être difficile d'aborder finalement des nœuds sérieux qui sont dans notre vie. Peut-être qu'on les traîne depuis beaucoup d'années. Nous voyons parfois des cheminements qui s'arrêtent en relation d'aide dès qu'on arrive à très proche de ce qui fait problème, de ce qui fait mal dans la vie d'une personne. Pourquoi ? Parce que ça fait mal et en même temps, on a peur de ce qui pourrait se passer. Et en même temps, c'est un... Je ne trouve pas le mot français. C'est un ingan. J'en oublie mon français. C'est un traquenard. Parce qu'en fait, nous n'avons rien à craindre. Nous pouvons être devant Dieu tel que nous sommes réellement. Nous n'avons rien à lui cacher. Qu'est-ce qu'on veut lui cacher ? Et en plus, c'est un Dieu qui nous accueille. Donc, on peut affronter les nœuds de nos vies. On peut affronter des moments de douleur parce que le Seigneur sera avec nous. Pendant notre séjour aux États-Unis, nous avons découvert plusieurs ministères. Et l'un des ministères qui nous a beaucoup touchés est un ministère qui s'appelle Celebrate Recovery. C'est un ministère qui est né dans l'église de Rick Warren et qui a essentiellement comme but d'aider les personnes avec problèmes de dépendance. Et puis le ministère s'est un peu élargi et finalement on a vu que ce ministère vient en aide à des personnes qui ont des grosses blessures dans leur vie, pas simplement des personnes qui ont des problèmes de dépendance. Et pendant que nous étions à Rochester pour cette période de stage, l'église où nous nous trouvions a célébré les 8 ans de ce ministère, du Celebrate Recovery. Et pendant ce moment de fête, de célébration pour ces 8 ans, nous avons eu le privilège d'écouter les témoignages de personnes qui ont bénéficié de ce ministère. Et il y a des choses qui m'ont beaucoup frappé, beaucoup touché. Parce qu'il y avait un dénominateur commun à tout ce que ces personnes ont raconté. Je crois qu'on a eu au moins 6 personnes qui ont parlé ce soir-là. Et il y avait vraiment des choses très fortes en commun dans tous ces témoignages, malgré des situations de vie très différentes et des problèmes de fond aussi assez différents. Alors, une des choses qui m'a frappé, c'est le temps. Nous sommes dans notre sujet. Les personnes qui ont témoigné d'un changement dans leur vie, d'un changement durable, ont parlé d'un cheminement qui a pris du temps, des années. Ça ne s'est pas fait comme ça, en un clin d'œil. Autre élément qui nous a beaucoup touchés, qui était très émouvant, ce qui les a attirés et qui a fait qu'ils sont restés, dans le sens qu'ils ont continué à participer à ces rencontres semaine après semaine, c'est l'atmosphère d'accueil, l'atmosphère pleine de grâce. Ils ont senti que ils entraient dans un milieu sûr où ils ne se sentaient pas jugés, ils sentaient la liberté de parler de leurs problèmes et d'être libres d'être ce qu'ils sont, d'être ce qu'ils étaient à ce moment-là et de pouvoir cheminer. Donc une atmosphère de grâce, d'accueil, un endroit où on ne se sent pas jugé. Je dirais presque un endroit où c'est normal d'avoir des problèmes. Qui n'a pas de problème. Parfois, c'est triste à dire, mais des fois, c'est dans les églises où il semble que c'est pas normal d'avoir des problèmes. On est chrétien, ça devrait aller tip-top, 365 jours par an. Un groupe tel que le Celebrate Recovery a complètement renversé la vapeur. C'est tout à fait normal d'avoir des problèmes. C'est même très suspect si vous arrivez et vous dites, moi, ça baigne dans l'huile, pas de problème. Donc, c'est intéressant parce que j'ai retrouvé ces éléments. Le temps, la grâce, l'accueil et la vérité. Parce que je vis dans un tel groupe, je vis dans la vérité. Je n'ai pas besoin de faire des efforts pour apparaître pour ce que je ne suis pas. Je n'ai pas besoin de cacher ce qui fait problème, ce qui fait douleur. Les erreurs que j'ai pu faire, même des erreurs graves que j'ai pu commettre dans ma vie. Donc, ça vaut la peine de réfléchir à la lumière de ces 3 termes, temps, grâce, vérité. Nous avons là des ingrédients fondamentaux pour continuer notre cheminement, indépendamment de notre situation aujourd'hui, indépendamment de notre âge, il y a un chemin qui continue. et il peut continuer d'une façon meilleure si on tient compte de ces éléments. Je ne voudrais pas aussi créer un malentendu. Je pense que le Seigneur peut aussi intervenir miraculeusement. Il peut y avoir des moments où le Seigneur nous porte très rapidement à une destination. Mais d'une manière générale, notre cheminement prend du temps. C'est dans le temps que les choses se construisent. C'est dans le temps que les choses aussi deviennent fortes, deviennent solides. Je me rappelle une... Je ne sais pas si vous appelez ça un gag, ça ne nous fait pas rire, mais enfin, une phrase qu'un prof à Emmaüs nous répétait souvent, justement pour essayer de faire passer cette idée que l'œuvre de Dieu prend du temps, il nous disait... Pour faire pousser des choux, ça va beaucoup plus vite que pour faire pousser un sapin, mais essayez de construire un meuble avec des choux. Alors bon, vous appréciez ou pas l'humour, mais l'idée y est, il faut du temps. Ce qui prend du temps peut être nettement plus solide. Je me rappelle aussi, vers la fin de notre temps à Emmaüs, je me rappelle d'une discussion après un souper avec un des profs, qui avait une position qui, heureusement, nous est parue un peu suspecte et on n'a pas suivi son conseil, mais on est en réflexion, quoi faire après Emmaüs? Et ce qu'il nous disait, c'est ne perdez pas de temps, ne passez encore pas plus de temps à vous former, le retour du Seigneur est proche, il y a urgence, commencez tout de suite à travailler après Emmaüs, ne perdez pas de temps. C'est une pensée, la pensée dominée par l'urgence. Je ne crois pas que ce soit la perspective que Dieu nous donne à travers toute sa parole. Le temps est important et nous ne devons pas nous faire piéger par cette sensation d'urgence qu'il vaut mieux faire vite. Le Seigneur n'est pas stressé et nous n'avons pas raison de stresser nous-mêmes. Alors ça vaut la peine, en termes de cette prédication de... J'aimerais vous inviter à vous interroger. Qu'est-ce que ça peut impliquer pour moi aujourd'hui, tout cela? Le temps, la grâce, la vérité. Est-ce que je suis en train de courir trop vite? Est-ce qu'il y a des aspects de ma vie, de mon caractère, des problèmes, des blessures, des choses qui ne vont pas, pour lesquelles je ne combats plus, je ne chemine plus, je suis résigné, ou bien je cherche les solutions magiques? Qu'est-ce que ça signifie tout ça pour moi? Est-ce qu'il n'y aurait pas une invitation à me remettre en route et à découvrir que le Seigneur peut faire de grandes choses encore dans ma vie et autour de moi? Qu'est-ce que ça peut signifier aussi pour notre Église? Qu'est-ce que ça veut dire aussi le temps dans les projets d'une Église? Et puis aussi pour la famille. Nous avons besoin de temps pour mettre des racines, pour une croissance solide. J'aimerais terminer avec une prière. Seigneur, donne-moi le courage de m'embarquer pour le voyage unique que tu as tracé pour moi. Par la foi, j'abandonne mon besoin de tout contrôler. Chaque événement, chaque circonstance, chaque personne que je rencontre. Dans le nom de Jésus. Amen.
La la la.